Alors, pour des raisons techniques, on ne verra pas Marc Lévy, mais on entendra Marc Lévy pour parler du troisième volet de cette trilogie 9, de cette série 9. Bonjour Marc.
Bonjour, comment allez-vous ?
Très bien, et vous-même ?
Mais écoutez, ça va très bien, merci.
En pleine tournée promo, c'est vrai que depuis quelques mois maintenant, vous pouvez revoyager, et c'était indispensable aussi pour pouvoir continuer à écrire.
C'était nécessaire pour pouvoir continuer à fournir la documentation dont j'avais besoin pour écrire ce roman et rencontrer les personnes que je devais rencontrer pour recueillir leurs témoignages. Donc je disais, j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi quand même pendant le confinement à pouvoir faire quelques voyages justement pour aller les rencontrer et ça a été assez précieux.
Alors, ces hackers, ces neuf donc, un groupe de hackers, sont des résistants en fait, et ça colle à votre histoire familiale aussi.
En fait, ce sont des résistants de la première heure, et ce sont des gens qui utilisent leur savoir-faire et leurs compétences, non pas à des fins criminelles, mais à des fins ils mènent un combat pour la protection des libertés, pour la démocratie. Et dans cette troisième aventure des neuf, ils vont s'attaquer à un dictateur et à sa dictature, et essayer de permettre à une population qui a un peuple qui veut se révolter contre le dictateur d'avoir des moyens techniques pour pouvoir mener ce combat, et enfin pas seulement techniques, et des moyens logistiques, humains, bref.
Ils ont des gros moyens quand même, vos hackers. Hein.
Eux-mêmes n'ont pas de gros moyens, mais ils savent comment accéder et actionner un certain nombre de moyens. Bien que le roman n'est pas du tout un roman technologique, ça tourne pas autour de la technologie. C'est un roman d'aventure et de résistance et d'histoire et de combat humain. Et en fait, je dirais comme un de vos collègues journalistes a fait une référence l'autre jour en parlant au cast de la Casa de Papel, c'est pas la façon dont on crochette la série la serrure qui est importante, c'est toute l'ambiance qui règne entre les personnages et leur motivation et ce pourquoi ils se battent.
Et je me suis posé une question parce que écrire un livre comme celui-là, outre le fait qu'il vous faut recueillir une importante documentation, parce que c'est autant un livre, un thriller, un roman d'aventure qu'un roman d'actualité aussi, parce que c'est raccroché véritablement à ce qui se passe dans le monde. Donc ça ne se fait pas en un tour de cuillère à peau. Or, dans le livre, vous faites référence à Kiev. Et plus à Kiev, donc en disant que les Ukrainiens souhaitent que depuis l'invasion de Poutine, on appelle leur capitale comme cela. Et ça date de fin février, donc c'est quelque chose que vous avez corrigé par après dans le livre ?
Oui, c'est même quelque chose que j'ai corrigé, ce qu'on appelle sur épreuve. Évidemment, l'histoire, je l'avais écrite bien avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine. Mais vous savez, au moment où on relit les épreuves et où on corrige les épreuves, ça c'était facile. Et donc, ayant appris le souhait des autorités ukrainiennes et étant un fervent partisan de l'Ukraine et de sa libération et de la chute du bourreau dictateur, plutôt du boucher dictateur, j'ai bien sûr évidemment par respect immédiatement changé cela.
L'année dernière, quand on s'était parlé, il y avait une phrase qui avait été mise en exergue par mes collègues. Vous disiez « Je ne pensais pas que notre démocratie était si en danger, si attaquée ». C'est malheureusement encore plus vrai, mais c'est pas aussi un peu parce que nous, les démocraties, nous sommes une espèce d'exception culturelle au regard du monde ?
Oui, c'est paradoxal parce que nous, qui avons toujours vécu et grandi en démocratie, on a cette conviction que la démocratie est absolument un état naturel. On a même d'ailleurs une telle conviction qu'on est même des enfants pourri gâtés quand vous voyez qu'aux élections législatives en France, il y a plus de 50% de la population qui n'a pas voté. Vous vous dites, mais c'est incroyable, quoi. On est aussi gâtés avec la démocratie qu'on était gâtés avec la nourriture quand dans le monde on meurt de faim. Ouais. Vous voyez ? C'est-à-dire que nous, on est des sociétés occidentales qui jetons des millions et des millions de tonnes de nourriture par an. Pendant que dans le reste du monde, des enfants meurent la gorge gonflée et le corps décharné parce qu'ils ont faim. Alors bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est triste et c'est tragique, mais oui, on est très gâtés. Mais avec cette même ignorance, à un moment donné, la démocratie bascule. Ça va très très vite. Ça va à une vitesse qui sidère tous les peuples qui ont perdu la démocratie, leur liberté et leurs droits. Il suffit qu'un autocrate s'installe avec son, je dirais, sa nomenclature autour de lui, les oligarches qui tiennent les rênes du pouvoir pour lui et qui l'enrichissent en contrepartie. Et très très vite, les libertés tombent les uns après les autres. Et quand il y a une base, comment vous dire, une base fanatisée, très polarisée, ça s'installe à une vitesse considérable.
Ouais.
Donc, regardez ce qui se passe en Hongrie, par exemple. Vous voyez, la Hongrie n'est plus une démocratie aujourd'hui.
Et
Et
c'est à côté
bref.
De chez nous, et c'est dans l'Union européenne en plus.
Exactement. Bon, alors, ce qui est important, c'est que finalement, quand vous, enfin, moi, je vais beaucoup dans les lycées. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je vois que les lycéens, par exemple, ne savent pas ce que ça veut dire, en fait, de ne pas être en démocratie. Et pour eux, c'est. Bien sûr, chez les personnes plus âgées, chez les adultes, il y a énormément d'adultes qui sont prêts, finalement, qui préfèrent la sécurité à la liberté. Parce que la liberté, ça demande beaucoup de courage. Et ça fait peur. Et puis, être libre, c'est accepter la liberté des autres. Et ça aussi, ça dérange. Vous voyez, souvent, la liberté des autres.
Ouais.
Parce qu'on a l'impression que la liberté des autres enfreint notre propre liberté. Donc on est tout à fait prêt à restreindre la liberté des autres et sans s'apercevoir à quel moment, enfin, sans comprendre que ce qui ira de pair, c'est l'aliénation de nos propres libertés. Enfin bref, c'est le sujet du livre, c'est le sujet d'une aventure contre un dictateur et contre la dictature
Et contre la
et c'est
dictature
pas un
en
gros.
Biélorussie, avec un nom de dictateur qui est un crossover entre deux voisins et amis, hein, entre le russe et le biélorusse. Et aussi, je dirais, un événement central autour duquel toute l'histoire se déroule ici dans ce troisième acte qui s'appelle Noah. C'est un fait d'actualité totalement vérifiable qui s'est déroulé l'année dernière. C'est ce détournement, cet acte de piraterie de la Biélorussie sur un avion de Ryanair pour mettre la main sur un opposant. Qui est dans l'histoire, qui est dans l'actualité aussi, c'est un fait.
Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui est à travers ce geste qui était un acte de terrorisme d'État mené par Loukachenko, qui a détourné un vol Ryanair qui se dirigeait vers Vilnius pour l'obliger, sous la contrainte d'un MIG, à s'opposer à Minsk. Et il a arrêté effectivement Roman Pietraszewicz et sa compagne Sofia, qui étaient des opposants, finalement, enfin, on va dire des blogueurs, journalistes opposants au régime. Mais c'était surtout, de la part de Poutine et de la part de Loukachenko, la volonté de montrer à l'Europe qu'ils pouvaient tout faire.
Ouais.
On n'a pas affaire à des hommes politiques. On a affaire à des clans mafieux. Et l'erreur qu'on a faite au sujet de Poutine, c'est de penser que Poutine était un chef d'État. Poutine enfin, il est bien sûr de fonction un chef d'État, mais bien avant d'être un chef d'État, c'est le chef d'un clan mafieux. C'est un Al Capone. C'est un Al Capone qui tue et qui terrorise pour faire régner son réseau mafieux et tous ceux qui l'entourent et qui assassine ceux qui lui résistent ou ceux qui le dérangent ou ceux qui vont aller toucher à sa superbe ou à l'utopie dans laquelle finalement sa violence et sa folie l'ont conduit parce qu'il vit il vit désormais dans une bulle de contradictions. Je lisais ce matin un article passionnant d'un journaliste russe qui a dû s'exiler en Angleterre et qui s'est aperçu du jour au lendemain que ses comptes en banque, enfin, qui a découvert par des messages de ses banques lui informant que ses comptes avaient été saisis, qu'il faisait l'objet de poursuites en Russie pour un nouveau crime qui a été inventé par le régime, qui a été ajouté à la loi par le régime, qui est que, soi-disant, si vous déclarez de fausses informations sur l'armée russe, vous êtes passible d'une peine de prison de 10 à 20 ans de prison. Sauf qu'évidemment, il n'y a que le pouvoir qui peut décider ce que
et
vous
oui,
avez
ce qui
dit.
Est vrai, pas vrai. C'est comme l'interdiction de prononcer le mot guerre aussi, qui vaut 15 ans de prison. Hein, donc, voilà.
Exactement. Et le journaliste en question avait enquêté sur le fait que Poutine avait été convaincu que l'invasion de l'Ukraine se jouera en quelques jours comme la Crimée parce qu'il avait obtenu des renseignements d'une branche du FSB, l'ex-KGB, qui avait infiltré l'Ukraine plusieurs mois avant la guerre et qui avait mené des renseignements. Et le journaliste racontait que il y avait eu un remaniement dans toute cette division du FSB et que même le chef de cette branche du FSB avait été envoyé en prison. Et rien que pour avoir dit ça, il fait l'objet de poursuites et il serait arrêté immédiatement s'il est en Ukraine, s'il rentre dans son pays.
Ce qu'on constate aussi, ce que vous attirez l'attention dans ce livre, dans Noah, Marc Lévy, c'est le danger pour la démocratie, pour les démocraties, des procès faits aux lanceurs d'alerte, aux journalistes pour les faire taire. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le soulignez dans le livre, on n'attaque plus l'homme ou la femme, on attaque l'homme ou la femme plutôt, et pas le média. On joue véritablement sur la peur individuelle des gens.
C'est le principe même d'une démocratie, d'une autocratie. Le principe d'une autocratie, c'est l'autocratie ne règne que par la peur et la répression. Et plus l'autocrate a peur de son peuple, et plus la répression est forte. Donc quand l'autocrate se sent extrêmement soutenu par le peuple et très aimé par son peuple, et qu'il y a comme ça une majorité de gens qui l'acclament, je dirais que la corde fait une certaine distance. Mais dès que les effets pervers de la dictature s'installent, puisque la dictature, par définition, c'est un régime d'État corrompu, où un tout petit nombre de personnes qui entourent le pouvoir et qui protègent le pouvoir s'accaparent les plus grandes richesses du pays. Donc au fur et à mesure que le pays s'appauvrit, la révolte grandit, l'opposition commence à se former, il y a des gens qui disent maintenant ça suffit. Et tous ces gens-là, il faut les arrêter, les emprisonner ou les assassiner avant que la révolte ne prenne corps et ne soit dotée de moyens qui pourraient remettre en cause le pouvoir absolu du dictateur. Et c'est ce qui se passe avec la presse, parce que le journaliste, le reporter d'investigation, de par son métier, il est le dernier rempart de la démocratie. La première division de soldats qui vont se battre contre des dictateurs. Pourquoi ? Parce qu'ils dénoncent les crimes. Mmh. Ce sont des journalistes qui ont prévenu le monde entier il y a très très longtemps et qui ont découvert les réseaux mafieux de Poutine et qui ont découvert la gigantesque fortune qu'il avait amassée et placée à l'étranger. C'est Navalny qui est en prison. Qui avait fait un reportage sur les richesses, les milliards de Poutine à l'étranger et à l'intérieur du pays, pendant que son peuple crève de faim, et une grande partie de son peuple crève de faim. Évidemment que ça dérange, et donc on les arrête, donc on les emprisonne pour d'autres crimes. On les accuse en général des crimes, le pouvoir les accuse des crimes qu'ils commettent eux-mêmes. Le nombre de journalistes assassinés par le régime de Poutine est absolument terrifiant, et donc oui, bien sûr que par exemple il y a un personnage du roman qui est important, qui est Janice est inspirée d'une vraie reporter journaliste qui s'appelle Carole Cadwalader. Et Carole Cadwalader, elle a mené un travail d'enquête c'est elle qui a fait la découverte du scandale de Cambridge Analytica. Et
pour rappel, c'est donc cette société qui pompait des informations sur Facebook pour truquer les élections américaines et le référendum sur le Brexit.
Oui, enfin, c'est même une société qui s'est vue remettre par Facebook les données privées. Oui. Parce que Zuckerberg a un rôle, et Sheryl Sandberg et la direction de Facebook ont un rôle extrêmement important dans la régression de nos démocraties. Il faut surtout pas les blanchir. Facebook est Facebook est la chambre d'écho des autocrates et des dictatures. Et comme le disait d'ailleurs à juste titre un acteur éminent et showman, si Goebbels avait eu Facebook, l'Holocauste se serait multiplié par 10. Enfin, ouais. Jamais les dictateurs et les régimes autocrates n'ont eu un outil de propagande et de répression aussi puissant que Facebook, qui a toujours été très très paresseuse et très complice des mouvements autocratiques.
Et tous les trolls aussi qui soutiennent, enfin je veux dire qui propagent aussi ces rumeurs et ces fausses informations.
Et donc Carole a révélé que un milliardaire anglais avait été enrichi soudainement par la Russie et avait injecté de l'argent russe dans les caisses d'un parti parallèle qui avait été monté en Angleterre par un certain Nigel Farage. Ouais. Qui est un peu l'équivalent en France de notre Marine Le Pen, et c'est vraiment des profils très proches, et Nigel Farage avait mené une campagne pro-Brexit, animée soi-disant par une volonté patriotique et indépendantiste, alors que bon, on s'est avéré que tout ça n'était qu'une question d'argent, de pouvoir, de compromission et de gros mensonges. Et quand Carole a découvert l'implication de ce milliardaire anglais à Rand Bank et parler de ces liens et de ces déjeuners qui étaient menés à l'ambassade de Russie avec l'ambassadeur de Russie en Angleterre, et de son soudain enrichissement très étrange, et je crois que c'était 5 ou 6 millions de livres qu'il avait injectés dans la campagne pour que l'Angleterre se sépare de l'Europe. Il s'est servi de sa fortune pour l'attaquer en justice, en diffamation, et pour commencer à son égard une extraordinaire campagne de harcèlement et d'épuisement moral. Alors Carole aurait été en Russie, elle aurait été empoisonnée, oui, et assassinée. Elle était reporter anglais au Guardian, et les avoirs des Russes en Angleterre étaient trop importants pour que la dictature de Poutine l'assassine. Et Aaron Banks était un troisième couteau trop éloigné de la nomenclatura pour que le régime se venge, mais il n'empêche qu'elle a fait l'objet de ce procès qui a occupé 3 ans de sa vie et qui a bien failli la détruire. La bonne nouvelle, c'est que il y a quelques jours à peine d'ailleurs, Aaron Banks a perdu son procès et le peu qui restait de son honneur avec.
Voilà, et c'est le personnage de Janice donc dans le livre, dans Noah, qui est donc le troisième tome de cette trilogie. Alors quand je dis troisième tome et quand je dis trilogie, ça laisse imaginer que c'est la fin. Pourtant, d'une certaine manière, comme l'histoire continue dans le monde, elle pourrait continuer aussi dans un tome 4, un tome 5, mais j'imagine que vous allez passer à autre chose.
Honnêtement, je sais pas. C'est ce que je m'étais dit en annonçant il y a 3 ans que ce serait une trilogie. Après, on a le droit de changer d'avis. Je sais que l'idée de dire au revoir à ces personnages avec lesquels j'ai vécu pendant des années, m'apparaît beaucoup plus difficile que je ne l'avais imaginé. Et je vais me remettre à écrire à la mi-août. Ouais. Et je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. J'ai la chance dans ce métier d'avoir cette liberté. Et donc, je compte bien l'employer.
Vous avez bien raison. Liberté, d'autant que vous faites plein de choses. Vous êtes auteur, évidemment, conteur, puisque vous aviez prêté votre voix à certains de vos livres audio. Il y a eu de la BD. Vous avez écrit des chansons. J'ai découvert ça un peu par hasard. Même une pour Johnny Hallyday. Voilà. Et vous devenez showrunner aussi parce que vous signez l'adaptation de votre roman Toutes ces choses qu'on n'a pas dites. C'est votre première série, Marc Lévy ?
Non. C'est Où es-tu avait déjà été adapté en série. Ouais. En 2005-2006. Là, l'adaptation de Toutes ces choses qu'on ne sait pas dites, enfin la série Toutes ces choses qu'on ne sait pas dites, va sortir probablement à la mi-juillet. Mm-hmm. Je crois que c'est sa date. Enfin, j'ai pas encore la confirmation exacte. Et donc, avec pour acteurs principaux Jean Reno et Alexandra Maria Lara.
Et vous?
Ouais, je joue un petit rôle dedans.
Ouais, mais quand même.
Oui, mais bon.
c'est une nouvelle aventure, ça, non?
Oui, c'était amusant. Ouais. En fait, ce qui était dingue, pour tout vous dire, quand le metteur en scène m'a proposé ça, je me suis dit, il est pas sérieux. Et puis, en fait, il l'était. L'aventure qui m'a fasciné, c'était l'idée de partir à la vraie rencontre d'un personnage de mes romans. Ouais. C'était incroyable parce qu'en fait, il m'a confié le rôle du meilleur ami de l'héroïne dans l'histoire. Et au début, j'ai dit, mais il est fou, j'y pense même pas. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, c'est assez fou comme situation parce que on me demande d'incarner un personnage qui est le meilleur ami d'un personnage de roman avec lequel j'ai vécu pendant des mois mais qui n'existait pas et qui là tout à coup va exister. Ouais. Et c'était un peu comme si, enfin, il y avait un côté Alice au pays des merveilles où tout à coup on vous pousse de l'autre côté du miroir et vous rentrez à l'intérieur des pages du livre et pour aller rencontrer le personnage que vous avez inventé et puis qui a pris vie et qui a pris sa propre vie. Et c'était je me suis dit, je peux pas passer à côté de cette expérience, il faut que je voie ça. De vivre en vrai une scène qu'on a écrite, c'est assez fou.
Qui est née dans votre cerveau.
Oui, mais c'est même une scène qu'on a imaginée et tout à coup qui prend vie et on la joue. Et donc en la jouant, on la vit vraiment. Et c'est une façon d'aller peut-être au plus près de l'écriture. De voir si les dialogues tiennent vraiment debout, de voir si la situation entière qu'on a imaginée, elle est vraiment réaliste, et si confrontée aux interactions physiques de la vie, la fiction est toujours crédible. C'était un travail, c'était très intéressant de voir ça, et je crois même que ça m'a appris certaines choses dont je me servirai dans l'écriture.
Vous vous êtes revu après? Vous avez déjà vu le résultat final?
Oui, parce qu'après, ouais, il y a tout le travail de montage. Mais enfin, quand ça passait sur moi, j'accélérais parce que moi, je déteste m'en regarder. Donc,
un peu de curiosité quand même, quoi.
Non, de ce côté-là, non, pas trop.
Bonne continuation pour la suite, Marc Lévy, puisque voilà, l'été sera court. Vous me disiez que vous alliez vous remettre à écrire au mois d'août, donc on croise les doigts pour la suite.
Eh ben, grand merci et pardon pour le défaut d'image. C'est un peu le prix à payer quand on est un peu trop souvent sur la route, mais c'est comme ça.
Et puis les images, elles naissent dans la tête. C'est ça aussi l'avantage de la littérature, c'est que vous faites naître des images dans la tête avec Noah, donc dont on va apprendre plus de choses, mais on n'en dira pas plus.
Eh ben, je vous remercie mille fois et je vous souhaite ainsi qu'à vos auditeurs une très très bonne journée et un très bel été.
Merci à vous aussi, Marc Lévy. À bientôt.
Merci. Au revoir.